Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, sur Droit Devant, j'ai le plaisir d'accueillir Garance Hiverneau. Garance est une amie, elle est aussi la fondatrice et la CEO de Garance et moi, le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Garance anime aujourd'hui une équipe composée d'une cinquantaine de consultants qui accompagnent les femmes dans leur transition professionnelle. Elle a accepté aujourd'hui de venir parler au micro de Droit Devant du sujet du bilan de compétences, ce dispositif peu connu du grand public, mais finalement extrêmement utile. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Garance nous explique ce qu'est concrètement le bilan de compétences, comment on peut obtenir un financement pour y avoir recours. Elle répond à la question de savoir si l'on doit informer son employeur lorsqu'on initie un bilan de compétences. Elle explique aussi pourquoi les entreprises ont intérêt à favoriser le recours à ce type de dispositif. Et enfin, elle donne son avis sur le sujet de savoir s'il s'agit plutôt d'un processus de réassurance ou d'un véritable moyen de parvenir à écrire une nouvelle page de sa vie professionnelle. Je vous laisse donc découvrir notre échange, riche de conseils utiles. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite à aller nous déposer un commentaire sur iTunes ou une note 5 étoiles, moyen le plus efficace de nous permettre de faire connaître plus largement Droit Devant sur les réseaux sociaux. Bonjour Garance.
Bonjour Marie-Laure.
Bienvenue sur Droit Devant.
Merci.
Je suis ravie de t'accueillir pour parler donc d'un sujet sur lequel tu es experte, le bilan de compétences. Alors, je connais assez mal le dispositif, pour être tout à fait honnête, et je le trouve finalement peu connu. Donc, tu vas nous l'expliquer. Je trouvais que c'était intéressant de te recevoir et de creuser un peu sur le sujet. Je me disais aussi que la période s'y prêtait peut-être. Tu vas nous dire quel est ton point de vue sur le sujet, mais c'est vrai que cette crise sanitaire pousse peut-être un certain nombre de salariés à s'interroger et à initier une période de questionnement d'origine professionnelle. Donc peut-être que c'est un bon timing. Donc voilà, on va explorer ensemble ce dispositif. Je sais que tu as créé cette société il y a quelques années qui propose donc des bilans de compétences. Est-ce que tu peux d'abord expliquer à mes auditeurs, mes auditrices, ce que c'est que le bilan de compétences?
Oui, tout à fait. Alors le bilan de compétences, c'est un dispositif d'accompagnement à la transition, à la reconversion professionnelle. C'est un dispositif qui est réglementé. Donc c'est pas très sexy comme ça de le dire, mais l'avantage c'est que du coup on a des financements, donc ça c'est un élément extrêmement important. Et donc bien sûr, c'est comme c'est réglementé, il y a une réglementation qui régit ce dispositif de manière à ce qu'il y ait un cadre assez strict, mais tout en apportant un peu de souplesse évidemment à l'intérieur du dispositif. Donc c'est un dispositif qui permet d'accompagner n'importe quel collaborateur, qu'il soit salarié ou ça peut être aussi un demandeur d'emploi ou même des indépendants, hein, on a vraiment tout public aujourd'hui, qui souhaite faire le point sur sa carrière et surtout envisager un nouveau projet professionnel sans trop savoir comment s'y prendre. Donc c'est un dispositif d'accompagnement pour faire le point et pour activer un nouveau projet professionnel.
D'accord, alors c'est super parce que tu devances mes questions, donc ça s'adresse, j'ai bien compris, à des gens qui sont en phase de repositionnement professionnel, qui sont demandeurs d'emploi, mais on peut aussi initier le projet lorsqu'on est encore salarié d'une entreprise. Et sur le sujet du financement que tu as rapidement évoqué, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut aller chercher, je ne sais pas, une prise en charge Pôle emploi lorsqu'on est en situation de demandeur d'emploi, ou est-ce qu'on peut obtenir un financement de la part de son employeur? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet du financement?
Alors, le financement, il y a quelques années, était encore assez compliqué pour financer son bilan de compétences. Aujourd'hui, ça s'est nettement simplifié et amélioré. En fait, depuis quelques mois maintenant, il y a ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, qui est une espèce d'enveloppe budgétaire, un crédit auquel tout actif en France a droit, donc à savoir les salariés, les demandeurs d'emploi et même les indépendants maintenant. Donc ça veut dire que ces personnes-là ont cette enveloppe qui est mise à disposition, auquel ils peuvent avoir accès très facilement en se connectant sur moncompteformation.gouv.fr, donc ils peuvent voir leur montant en euros. Et grâce à cette somme, ils peuvent financer un bilan de compétences, mais pas que, une formation certifiante ou le permis de conduire, par exemple. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté qui simplifie l'accès au bilan de compétences, c'est qu'on peut accéder à cette enveloppe budgétaire de manière autonome. Donc quand vous êtes salarié, vous n'avez pas besoin de demander l'accord de votre employeur, ce qui est quand même plutôt sympa parce que vous n'avez pas forcément envie de parler à votre employeur du fait que vous avez peut-être envie de partir ou de faire autre chose. Donc ça ne passe pas par l'accord de l'employeur. Et quand vous êtes demandeur d'emploi, donc là il y a deux options, soit vous avez le montant CPF qui correspond au prix du bilan de compétences, donc là qui est variable d'un cabinet à un autre, et auquel cas vous n'avez pas besoin de demander l'accord de votre conseillère ou de votre conseiller Pôle emploi. Donc en trois clics, vous faites votre demande de financement, vous activez et vous démarrez votre bilan de compétences quasiment dans la foulée. Si par contre il vous manque une partie du financement, dans ces cas-là, Pôle emploi fait un complément de financement, c'est-à-dire un abondement dans leur jargon, et donc ils complètent, alors là évidemment c'est à la discrétion de la conseillère ou du conseiller, mais ils peuvent compléter le financement de manière à ce que le demandeur d'emploi n'ait pas de reste à charge pour financer son bilan de compétences.
Ok, et donc lorsque c'est une démarche qu'on initie alors qu'on est encore collaborateur au sein d'une entreprise, c'est une démarche, tu le disais, qui est complètement décorrélée en fait de l'intervention de l'employeur et qui va être parfaitement confidentielle, c'est-à-dire que tu peux l'entreprendre alors même que ton employeur n'est pas au courant que tu as initié la démarche.
Exactement, donc ça peut être une démarche totalement confidentielle, en effet, sans avertir son employeur, mais l'employeur peut aussi inciter son collaborateur à faire un bilan de compétences, donc soit le collaborateur utilisera son fameux CPF, son compte personnel de formation, soit ça sera financé par le plan de développement des compétences de l'entreprise. Mais en tout cas, le collaborateur ou la collaboratrice a tout à fait la possibilité de faire financer son bilan sans passer par son employeur.
Et tu constates que certaines entreprises, justement, intègrent ces bilans, ces propositions de bilan de compétences dans des accords d'entreprise de manière à les proposer de façon incitative à leurs collaborateurs. C'est une pratique qui se développe de plus en plus ou pas?
Alors, c'est une pratique qui se développe de plus en plus dans la mesure où l'employabilité de la collaboratrice ou du collaborateur est un élément important d'un point de vue légal. C'est évidemment pas à toi que je vais l'apprendre, mais en tout cas ça rentre en effet dans les politiques RH. Le seul souci, c'est que le bilan de compétences peut amener la personne à quitter l'entreprise s'il s'avère qu'elle va réfléchir à un projet de mobilité externe ou de création d'entreprise. Donc il faut que l'employeur accepte, s'il veut garder son collaborateur ou sa collaboratrice, que potentiellement ça peut aussi l'amener à réfléchir à un nouveau projet. Mais je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont tout intérêt à favoriser ce dispositif parce que ça permet vraiment aux collaborateurs de se remettre en question, de faire le point sur ses compétences et de se projeter dans une dynamique de carrière qui, de toute façon, est vertueuse pour l'entreprise.
Oui, et puis c'est vrai que de plus en plus, on se retrouve sur un marché qui est extrêmement mouvant et où on ne fait plus carrière comme à l'époque dans la même entreprise durant toute sa vie. En réalité, il y a toute une phase de repositionnement et de réflexion professionnelle qui s'amorce. Donc effectivement, le bilan de compétences s'inscrit complètement dans cette logique. Exactement. Alors on va y venir parce qu'on parlera justement tout à l'heure des profils des gens qui ont recours à ce dispositif. Mais avant ça, je voulais que tu m'expliques un petit peu l'origine de cette société que tu as créée il y a quelques années. J'ai compris, et arrête-moi si je me trompe, que tu avais fait le choix, et tu vas nous dire un peu pourquoi, de dédier cette société à la carrière des femmes et d'orienter tes services sur la reconversion professionnelle des femmes, si j'ai bien compris. C'est un pari risqué pour une jeune entreprise, finalement, de faire le choix de se couper d'une partie de sa clientèle potentielle. Est-ce que tu peux nous expliquer les origines un peu de ton choix?
Bien sûr. Alors déjà, l'origine de la création de la boîte, c'est mon parcours, mon histoire, puisque moi-même, pendant 10 ans, j'ai été salariée, demandeur d'emploi, en tout cas, j'ai été dans une période d'errance professionnelle sans savoir finalement quelle était ma bonne place, ma vraie place. Et au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que c'était plus tenable, qu'il fallait que je fasse absolument un choix et que je mette en place une vraie stratégie de carrière. Donc j'ai moi-même fait un bilan de compétences qui a été une révélation et qui a littéralement changé ma vie. Et quand j'ai fait ce bilan de compétences, je me suis dit comment ça se fait que ce dispositif qui est mal nommé, donc c'est pour ça aussi que c'est un dispositif qui est très peu connu du grand public parce que le terme en tant que tel ne représente pas le dispositif réel. C'est souvent mal perçu parce qu'on a l'impression que c'est un peu dégradé comme prestation. Enfin bon, bref, c'est pas toujours très bien connu ni bien perçu. Mais surtout, je me suis dit, comment ça se fait que peu de personnes, finalement, aient conscience que ça existe, que c'est financé et que ça peut vraiment changer
le cours d'une carrière.
Voilà, un projet de carrière, et on sait bien que la carrière est quand même souvent associée à des projets de vie de manière générale. Donc ça, c'est parti du point de départ. Et donc, Moi, mon moteur, c'était vraiment de me dire, il faut que je puisse démocratiser l'accès à l'information et donner l'occasion à le plus de monde possible d'accéder à ce dispositif qui est quand même ultra précieux. Mmh. Et comme tu le disais très justement, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus carrière à vie dans la même boîte. Donc, de toute façon, non seulement c'est précieux, mais c'est même vital, en fait, hein, pour n'importe quelle personne aujourd'hui. Donc ça, c'est la genèse de la boîte qui a bientôt 10 ans maintenant. Et pourquoi les femmes ? Eh bien, tout simplement parce que les femmes font face à des difficultés, à des problématiques spécifiques dans leur vie, qui sont évidemment des sujets assez complexes. Mais en gros, elles intègrent souvent des stéréotypes sur la façon dont elles doivent se comporter en entreprise, la façon dont elles doivent gérer leur vie, qui impactent directement leur carrière professionnelle. Donc, par exemple, la relation à l'ambition. Évidemment, leur carrière est impactée par les maternités. Donc, il peut y avoir des ruptures de carrière préjudiciables à leur choix professionnel. Et donc, tous ces sujets-là, l'ambition, la relation à l'argent, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, donc des choix, enfin des sujets auxquels elles sont plus confrontées que les hommes, on peut le déplorer, mais c'est une réalité encore aujourd'hui, eh bien, ça provoque des questionnements, des situations qui leur sont propres. Et du coup, il faut qu'on agisse dessus pour leur permettre, en effet, d'être plus épanouies, d'être plus heureuses dans leur vie professionnelle. Donc, évidemment, c'est un sujet qui est complexe et qui est systémique. Donc, ça concerne évidemment la société tout entière, ça concerne les entreprises, ça concerne l'État. Donc, tout le monde agit à son niveau, donc avec la réglementation, avec l'entreprise qui agit sur l'égalité femmes-hommes, avec les plans égalité, etc. Mais les femmes elles-mêmes ont aussi un rôle à jouer. Et elles peuvent tout à fait se saisir de ce sujet-là, tout simplement pour, encore une fois, avoir un meilleur épanouissement dans leur vie professionnelle.
D'accord. On va parler justement du profil des femmes qui sont tes interlocutrices et qui décident d'initier cette démarche de bilan de compétences. Est-ce que finalement, tu constates que donc, c'est un processus de réassurance pour une femme qui pourrait être en manque de légitimité sur un poste qu'elle vient d'obtenir ou alors qu'elle occupe depuis quelque temps et sur lequel elle se sent plus à l'aise pour X ou Y raison? Ou est-ce que c'est pas juste de la réassurance, mais ça permet parfois d'aboutir à des vraies reconversions professionnelles, ce cheminement en fait? Enfin, est-ce qu'on peut aussi partir d'une page blanche et se retrouver à écrire une nouvelle histoire professionnelle?
Alors c'est souvent les deux, c'est-à-dire que le bilan de compétences, de toute façon, va avoir cette action de réassurance, puisqu'on va réfléchir à toutes les compétences, voire les expertises qu'on a développées, qu'on a acquises durant son parcours. Et en fait, ça, c'est quand même aussi une spécificité féminine de pas toujours avoir conscience des compétences qu'elles ont développées. Et surtout, elles n'ont pas conscience de la façon dont elles doivent les vendre face à un recruteur, à un N+1, un manager, peu importe. Donc, il y a déjà, en effet, cette réassurance du fait de la prise de conscience des compétences qu'elles ont développées, voire encore une fois d'une expertise. Donc ça, de toute façon, c'est un passage obligé en bilan de compétences. Donc, ça joue évidemment sur l'estime de soi. Et on sait que les femmes ont plus de difficultés avec ce sujet-là. Et parallèlement à ça, on est vraiment dans une démarche d'action. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas juste de faire un point sur ses compétences, sur ce que je veux, où est-ce que je veux aller. C'est vraiment de mettre en action un projet professionnel. Donc de toute façon, il y a toujours un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a toujours soit une reconversion, soit une mobilité interne, soit une création d'entreprise, ou alors elles peuvent rester, en effet, dans leur poste ou dans leur situation actuelle et différer leur projet parce que, tout simplement, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas si mal que ça là où elles sont, ou alors il y a un événement d'ordre privé, personnel, qui fait qu'elles reportent ce projet-là. Mais en tout cas, elles ne restent jamais au même stade que quand elles viennent nous voir. Il y a toujours une évolution avec un projet très concret, d'ailleurs qu'on écrit noir sur blanc, elles repartent avec une synthèse écrite et avec un plan d'action, de manière à ce que ce projet se mette en œuvre très concrètement à l'issue du bilan, et on les revoit 6 mois après pour faire le point et voir est-ce que cette reconversion, est-ce que cette mobilité, est-ce que cette création d'entreprise
est satisfaisante de leur point de vue.
Est satisfaisante, ou est-ce qu'il y a des choses à réajuster parce que elles n'ont pas obtenu une formation, parce qu'elles ont eu un enfant, parce que voilà, tous les aléas de la vie ont pu aussi interférer avec le projet qu'elles avaient envisagé.
D'accord. Et quelles sont en fait les principales difficultés que toi, tu peux identifier dans l'évolution d'une carrière d'une femme en réalité? On en a déjà un petit peu parlé là dans ce que tu viens de nous dire, mais concrètement, c'est ce qui t'a un peu amené à faire ce constat et à créer la société.
Alors nous, il y a vraiment deux choses qui ressortent de manière assez importante. La première chose, c'est évidemment les maternités. puisque c'est des moments voilà, où toute la vie change, la vie entière est bouleversée, donc la vie entière pour elles, pour leur famille. Et évidemment, ça impacte aussi cette délicate question d'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Et puis après, ça dépend vraiment aussi du contexte dans lequel elles sont, de l'entreprise dans laquelle elles vont être, puisque les politiques, évidemment, diffèrent d'une entreprise à une autre. Et puis, voilà, je ne sais pas, une personne qui est fleuriste, elle aura des contraintes extrêmement lourdes en termes de présence dans sa boutique que n'aura pas une cadre qui travaille pour une banque, par exemple, avec une convention collective plutôt sympa quand
sur
on a...
de jours RTT.
Exactement, voilà. Donc, tout dépend, bien sûr, de leur contexte. Et c'est en ça que le bilan de compétences est intéressant, c'est que vraiment, c'est un accompagnement individuel qui va être ultra personnalisé et on va adapter évidemment la réflexion et les choix en fonction de la situation de la personne. Donc, pour revenir à ta question, l'articulation vie pro-vie perso, c'est évidemment un sujet crucial puisque les femmes font encore deux fois plus, enfin passent deux fois plus de temps encore aujourd'hui que les hommes sur la partie tâches familiales, tâches ménagères. Donc, c'est, voilà, c'est un vrai sujet pour elles. Et encore une fois, je le déplore.
Ça, ce sont les informations que tu perçois au quotidien dans l'accompagnement des femmes avec lesquelles tu travailles. Justement, c'est ces informations-là qui te sont remontées, c'est-à-dire vraiment l'importance de ce que représente la gestion de la...
Oui, alors c'est des informations qui nous sont remontées directement par les femmes elles-mêmes. Et puis après, c'est étayé par des statistiques. Hein, donc, c'est complètement prouvé. Mais en effet, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent, moi, j'ai du mal à gérer... les deux, j'ai pas envie de faire un choix, et elles ont raison, entre ma carrière professionnelle et ma vie familiale. Et après, il y a toute la question liée autour du présentiel. Alors évidemment, là, en pleine période Covid, cette question se pose moins, mais peut-être que ça remettra en cause aussi des modèles un petit peu archaïques parfois. Mais c'est sûr que la souplesse, la flexibilité des temps de vie, donc du temps de travail et du temps alloué à la famille, c'est quand même un critère extrêmement important pour les femmes. Et après, il y a un deuxième élément qui est vraiment la notion d'impact, de sens, d'avoir un métier où on a l'impression que notre action quotidienne va servir à quelque chose. Et c'est vrai qu'alors la crise du Covid a complètement accéléré cette tendance hein, qu'on avait évidemment perçue avant, mais qui est pourquoi je me lève le matin. Voilà. Est-ce que mon boulot a un sens? Est-ce que le fait de passer 8 heures par jour à travailler, ça vaut le coup? Est-ce que je sers une entreprise, un projet voilà, qui sert l'intérêt collectif ou en tout cas quelque chose dans laquelle je me reconnais et avec lequel je vais être alignée.
Est-ce que ça, finalement, c'est pas un dénominateur commun à tous ceux qui initient un bilan de compétences, qu'ils soient hommes ou femmes du reste, mais je pense que lorsqu'on s'inscrit dans une démarche de ce type où on se commence à se questionner sur sa carrière professionnelle et je sais pas, l'orientation qu'on veut y donner, peut-être qu'il y a effectivement toujours ce sujet qui surgit, en réalité, qu'on soit un homme ou une femme, je sais pas. Hein,
mais... Alors, en fait, tout dépend aussi si c'est une reconversion subie ou choisie, quand on est licencié ou quand on est au chômage ou quand on est dans un secteur sinistré comme en ce moment avec le Covid, on n'a pas forcément le choix. On doit se reconvertir, on doit envisager un autre avenir professionnel parce qu'on est en difficulté. Donc la question du sens n'est pas forcément la première question qui va ressurgir. Ça va probablement être comment je sécurise mon avenir professionnel, comment je sécurise mon employabilité. En revanche, en effet, pour des personnes qui sont en poste et qui sont a priori pas menacées, et heureusement il y en a, la question du sens peut être une question absolument fondamentale pour eux. Donc, en effet, ça concerne bien entendu aussi les hommes, mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que l'articulation vie professionnelle, vie privée, plus la question du sens, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et ça remet très vite en cause quand même, ça rabat les cartes oui. Très très rapidement dans les choix professionnels qu'elles vont faire.
D'accord. Et est-ce que toi, ces derniers mois-là, tu as fait le constat que la période qu'on vit est particulièrement propice pour entamer ce type de questionnement? Est-ce que c'est ce que tu constates au quotidien que, voilà, alors ça, on peut parler de la crise, puis on peut aussi parler peut-être d'autres moments dans la vie des femmes, une maternité, un événement particulier. Donc déjà sur la crise et puis ensuite sur les événements qui jalonnent le cours de la vie d'une femme, quels sont ceux que tu identifies comme pouvant... mettre sur la table le sujet du bilan de compétences?
En fait, la crise a été un accélérateur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, évidemment, pouvaient se poser des questions sur son avenir professionnel et voilà, avaient peut-être envie de faire autre chose, mais sans vraiment passer le cap. Et en fait, nous, on a constaté, hein, dès le mois de mars, donc dès le premier confinement, on a eu 30% d'activité en plus. Alors déjà parce qu'il y avait beaucoup de salariés qui étaient en chômage partiel, donc il y avait du temps.
Pour entamer ces réflexions à long cours,
en
fait.
C'est ça. Donc en fait, ils se sont retrouvés chez eux à être rémunérés, à ne pas travailler. Et en fait, voilà, ils avaient du temps pour la première fois de leur vie et ils se sont dit c'est le bon moment pour le faire. Donc ça, c'est les salariés qui étaient plutôt protégés, je mets beaucoup de guillemets évidemment, mais en tout cas qui étaient dans une situation propice à la réflexion et à enclencher un bilan de compétences à ce moment-là. Et puis, on a toutes les personnes qu'on a vues... arrivés qui étaient dans des situations, alors pas forcément de licenciement, puisque là, tu le sais, on est en situation de perfusion, c'est-à-dire que tant que les entreprises ont le chômage partiel, le prêt garanti par l'État, ben voilà, ça ne représente pas la réalité économique des entreprises, mais il y a eu d'ailleurs moins de défaillances en 2020 qu'en 2021, d'entreprises, mais on sait très bien que ça ne correspond pas, ça ne reflète pas la réalité. Par contre, quand les subventions vont s'arrêter... bien évidemment, ça va être extrêmement difficile et ça va avoir un impact directement sur l'emploi. Mais ça, les Français ne sont pas bêtes, ils le savent. Donc, ils savent pertinemment quand ils sont dans l'aéronautique, dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, et j'en passe, ils sont de fait menacés. Et même s'ils continuent à être payés pour le moment, il y a probablement, dans quelques semaines, dans quelques mois, le sujet va se poser. Et donc, ils anticipent, en fait, et ils ont raison d'anticiper. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est toujours mieux d'être en poste quand on se repositionne d'un point de vue professionnel que d'être demandeur d'emploi. Voilà, évidemment, les demandeurs d'emploi peuvent tout à fait aussi se reconvertir, mais voilà, c'est toujours plus sécurisant pour un employeur de recruter quelqu'un qui est en poste que quelqu'un qui est...
qui ne l'est pas.
Qui ne l'est pas, exactement. D'accord. Donc, cette anticipation du problème, bah, nous, on l'a vu concrètement dans nos chiffres. On a vraiment eu un énorme afflux de personnes qui ont souhaité être accompagnées. Et ça, c'est vraiment la crise du Covid, en effet, qui a accéléré cette tendance-là.
Et en vitesse de croisière, donc sans parler de cette pandémie, est-ce que tu identifies dans la vie d'une femme des moments où elles vont être tentées de s'interroger sur le cours de leur carrière professionnelle ? Est-ce que ça peut être un moment dans leur vie où, que ce soit professionnel ou lié à l'âge ou lié à, je ne sais pas,
un nouveau challenge ? En fait, on a trois moments clés qu'on a repérés dans les femmes que nous accompagnons. Il y a un premier moment clé qui est des jeunes femmes qui sortent d'un premier job, donc c'est-à-dire elles ont fait des études, elles ont fait un premier emploi et elles se rendent compte qu'elles se sont complètement trompées de voie et que le premier job qu'elles ont occupé finalement ne correspondait pas du tout
à leurs espérances,
pas à la hauteur de leur attente ou juste en décalage par rapport à ce qu'elles avaient imaginé. Et là, elles se disent, bon, voilà, j'ai travaillé 1 an, 2 ans, 5 ans, il est encore temps de tout revoir, de tout remettre sur la table. Et là, pour le coup, c'est assez... confortable parce qu'elles ont la vie devant elles et on peut tout revoir, bien sûr, c'est relativement facile. Après, on a une tranche d'âge qui est vraiment le milieu de la vie, donc en gros entre 30 et 45 ans, on va dire. Donc en effet, c'est les premières grossesses, c'est le moment où on se marie, c'est le moment où on divorce. Enfin, il y a beaucoup d'événements de la vie d'ordre personnel qui, là encore, vont avoir un impact direct sur sa carrière professionnelle. Elles ont travaillé depuis 10-15 ans, donc elles n'ont pas forcément envie de tout perdre, puisqu'elles ont parfois une situation... un revenu, ou alors même si elles sont demandeurs d'emploi, elles ont quand même construit des choses. Mais en tout cas, elles savent qu'il leur reste encore un certain nombre d'années à travailler et elles n'ont pas envie de faire les mauvais choix. Et elles ont envie d'avoir une carrière qui reste encore importante, qui soit à la hauteur de leurs attentes. Mais en tenant compte, là encore, de leur vie personnelle, donc si elles ont des enfants, pas d'enfants, mariées, pas mariées, etc. Et puis après, on a une troisième étape de la vie, donc des femmes qui sont malheureusement dites seniors, même si elles ne le sont pas. En tout cas, nous, on le voit, elles sont évidemment en pleine forme. Mais on le sait bien, sur le marché du travail, c'est un peu plus compliqué. Elles sont souvent plus chères en termes de rémunération, mais elles ont aussi un niveau d'expertise souvent plus élevé. Et donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser, là encore, leur fin de carrière et leur employabilité et faire en sorte de savoir se vendre, de savoir vendre leur expertise de manière plus impactante. Et donc par contre, elles ont moins de choses à prouver aussi parce qu'elles ont un peu plus de bouteilles, elles ont un peu plus travaillé. Donc, c'est des moments clés.
D'accord, de la vie d'une femme que tu arrives à identifier un petit peu.
Exactement.
Ok. Écoute, merci beaucoup, Garance, pour cet éclairage sur le bilan de compétences. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire comment tu vois le monde du travail de demain ?
Écoute, le monde du travail déjà était très compliqué à appréhender avant la crise et là, il est devenu complètement chaotique En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des métiers qui recrutent, des métiers en tension.
Alors, lesquels, justement?
Alors, par exemple, les métiers du numérique. Ouais. Nous, on est très sensibles sur ce secteur d'activité. On invite les femmes qui viennent nous voir à
s'orienter.
Se réorienter vers ces métiers-là, évidemment, si elles le veulent et si elles ont une appétence pour ça. Mais en fait, la difficulté, c'est que beaucoup de femmes n'ont même pas conscience du fait que ces métiers existent. Elles n'ont pas conscience du fait que ce sont des métiers accessibles. Elles ont tout un tas d'idées reçues sur ces métiers-là, alors que finalement, c'est le premier recruteur en Ile-de-France. Il y a 45 000 postes à pourvoir en 2021. C'est des métiers qui sont très rémunérateurs, beaucoup plus que dans les familles de métiers dans lesquelles les femmes s'engouffrent encore aujourd'hui, qui sont des familles de métiers où malheureusement les rémunérations sont très basses, où il y a assez peu d'évolution professionnelle. C'est des métiers qu'on peut faire aussi souvent à distance, et donc ça rejoint ce besoin, cette envie de flexibilité pour gérer, de mieux gérer cette vie pro et vie perso. Et puis tout simplement, c'est des métiers qui répondent à des enjeux de société. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous devenez développeur-développeuse, vous codez le monde de demain. Et donc, c'est vrai que c'est des métiers qui sont malheureusement encore aujourd'hui très masculins. Et donc, ça pose un problème parce qu'ils vont construire un monde qui ne sera pas à l'image de la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde constitué d'hommes et de femmes. Donc, c'est vraiment un métier pour lequel elles peuvent avoir de l'impact. Et ce n'est pas que les métiers de développeurs-développeuses. Hein. Il y a plus de 800 métiers, je crois, sur les métiers du numérique. Mais typiquement, si vous faites une formation aujourd'hui dans ces métiers-là, sur le métier de développeur, par exemple, vous avez un taux d'employabilité de 96%. C'est-à-dire que vous avez 4% de risque d'être au chômage. Donc, autant vous dire, c'est quasi nul. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que dans une période où, comme aujourd'hui...
On entend parler de la crise toute la journée.
On voit
un
tous
peu
les métiers sinistrés, ouais. En difficulté, etc., qui sont des métiers précieux dont on a besoin, bien entendu. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des métiers, heureusement, qui recrutent. Il faut juste les connaître l'écosystème, connaître les formations, et puis voir, bien évidemment, et ça c'est notre rôle de le faire, d'identifier si ça répond, si ça correspond à ses valeurs, à ses appétences. Nous, on est vraiment dans un travail d'alignement de soi vis-à-vis du métier et vis-à-vis du marché.
D'accord. Voilà. Eh ben, merci pour cette note d'optimisme, alors, pour cette vision du monde de travail de demain. Merci beaucoup, Garance.
Merci à toi, Marie-Laure. Merci.